have you for supper. VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Abuja, 18h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Burundi, malgré les tirs de sommation, des centaines de jeunes ont à nouveau manifesté à Bujumbura. Aujourd'hui, contre ce troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, les pays des Grands Lacs ont demandé le report des élections. C'est tout du moins ce qu'a indiqué le président sud-africain Jacob Zuma à son retour d'un sommet extraordinaire en Angola, consacré notamment à la crise burundaise. C'est ce que rapporte l'AFP. Nous écoutons Jacques Aristide.
La crise politique demeure totale à une semaine du début théorique des élections générales au Burundi. Des troubles qui inquiètent le président sud-africain, dont le pays est membre observateur de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Pour Jacob Zuma, il faut un report jusqu'au retour d'une stabilité permettant la tenue d'élections libres et justes. L'Afrique du Sud entend envoyer une délégation au Burundi avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pour contribuer à une résolution pacifique de la situation. Situation toujours tendue malgré la peur de la répression. Des protestataires se sont mobilisés ce mardi dans plusieurs quartiers périphériques de la capitale, quartiers où l'armée a été déployée. D'après l'AFP, les militaires ont tiré en l'air pour disperser les manifestants, mais sans grand résultat. Et lors d'un meeting improvisé ce même mardi, les principaux leaders de la contestation ont appelé leurs partisans à continuer le mouvement. Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan à nouveau sur la crise burundaise. Après le coup d'État avorté, appel au report des élections, une armée divisée face aux manifestations contre le président Nkurunziza, flux croissant de réfugiés vers les pays voisins. Faut-il craindre le pire pour le Burundi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
En France, le général Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre, affirme que les accusations de viol d'enfants par des soldats français en Centrafrique auront de graves conséquences. Toujours en bref, au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso entame demain des consultations sur la vie de la nation et de l'État. Pour l'opposition, M. Sassou, à la tête du pays depuis plus de 30 ans, lance des manœuvres pour modifier la constitution et rester au pouvoir. Le gouvernement de Brazzaville est à nouveau accusé d'exactions envers les étrangers. La police a lancé une nouvelle opération à Pointe-Noire pour arrêter les immigrés en situation irrégulière et lutter contre la criminalité. Au Nigeria, la sécurité est toujours à la une. 8 personnes ont été tuées aujourd'hui quand un kamikaze s'est fait exploser devant un marché au bétail dans le nord-est du Nigeria, selon un élu local et un habitant qui se sont confiés à l'AFP. Et d'autre part, samedi soir, 3 personnes ont été tuées, 7 femmes ont été enlevées lors d'une nouvelle attaque du groupe islamiste armé Boko Haram dans un village du district de Madagali dans l'état de l'Adamawa, dans le nord-est du pays. La région est pourtant considérée comme sécurisée par le ministère de la Défense depuis qu'elle a été reprise à Boko Haram par l'armée en mars dernier. Le district de Madagali avait été sous la coupe de Boko Haram depuis août 2014, ce qui avait poussé des milliers d'habitants à la fuite. Après la libération de la ville par l'armée il y a 2 mois, les déplacés avaient alors recommencé à rentrer chez eux. Ces récentes violences les ont contraints à fuir de nouveau. Et Nigeria toujours, le secrétaire d'État John Kerry mènera la délégation américaine à la cérémonie d'investiture du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, la semaine prochaine à Abuja. C'est ce qu'a affirmé un communiqué de la Maison Blanche aujourd'hui. Monsieur Buhari, qui a remporté l'élection présidentielle en mars contre le président sortant Goodluck Jonathan, doit être investi le 29 mai. Un grand nombre de chefs d'État et de gouvernements africains et occidentaux devraient également se rendre dans la capitale nigériane pour cette cérémonie. Il s'agit de la première alternance par les urnes dans le pays le plus peuplé d'Afrique, première puissance économique du continent. Direction le Burkina à présent, le groupe Almorabitoun revendique le rapt de l'otage roumain enlevé le mois dernier au Faso. Dans un enregistrement audio sur cette affaire, l'un des chefs de l'organisation confirme aussi sa dissidence par rapport à l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Le point avec Anne Alberson.
L'enregistrement audio est diffusé par le site mauritanien Al-Akbar qui relaie régulièrement les revendications des djihadistes. On peut entendre un homme disant parler au nom d'Adnan Abou Walid Sarraoui, émir d'Almourabitoun. L'auteur de cet enregistrement en arabe appelle le gouvernement roumain à accorder une attention sérieuse aux négociations au sujet de la libération de l'otage détenu par le groupe. Le Roumain, officier de sécurité dans une mine de manganèse de Tambao, dans le nord du Burkina Faso, avait été enlevé le 4 avril par des hommes armés non identifiés. À noter que le message audio se conclut par une réitération de l'acte d'allégeance au groupe État islamique, proclamé la semaine dernière au nom d'Almourabitoun par Adnan Abou Walid Sarraoui, et aussitôt démenti dans un communiqué attribué à Mokhtar Belmokhtar. Cela montre les dissensions persistantes au sein du groupe djihadiste.
Au Kenya, le centre commercial Westgate de Nairobi rouvrira ses portes en juillet prochain. Il avait été ravagé en septembre 2013 lors d'une attaque par des islamistes somaliens Shabab qui avait fait au moins 67 morts. 4 personnes sont mortes d'Ebola lundi en Guinée où ont été rapportés 6 nouveaux cas à Doubreka, Forécaria et Boké. Dimanche, la Sierra Leone a, elle, signalé 2 nouveaux cas. À l'ouverture de l'Assemblée générale de l'OMS hier, la directrice de l'agence, Margaret Chan, a annoncé un nouveau plan pour faire face aux urgences de santé. Le point avec Nathalie Barge.
La Guinée et la Sierra Leone ont enregistré au total 35 nouveaux cas d'Ebola la semaine passée, soit 4 fois plus que la semaine précédente. Il faudra un effort extraordinaire pour achever le travail, a souligné le représentant spécial de l'OMS pour l'Ebola, Bruce Aylard, que cite l'agence AP. Il a aussi averti que le retour des pluies accroîtra les difficultés logistiques. En réponse aux nombreuses critiques sur la manière dont l'OMS a géré la crise liée à l'épidémie d'Ebola, l'agence a annoncé une réforme de son programme d'intervention d'urgence au plan mondial. À l'ouverture de l'Assemblée générale de l'OMS lundi, sa directrice, Margaret Chan, a révélé que des équipes d'urgence de santé seront positionnées dans plusieurs pays et pourront se déployer sur le terrain en temps voulu. « Je ne veux plus jamais voir cette organisation dans une situation où elle ne serait pas préparée, équipée, financée ou organisée pour gérer une crise », a souligné la patronne de l'agence onusienne, avant d'ajouter que l'OMS avait besoin de 100 millions de dollars pour y parvenir.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde. Et l'actualité dans le reste du monde, au Yémen, 500 000 de personnes ont été déplacées depuis mars par le conflit où la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a repris mardi ses frappes aériennes sur la capitale Sanaa aux mains des rebelles chiites houthis. Michel Joseph.
Il s'agit selon l'AFP des premières frappes sur Sanaa depuis la fin d'une trêve déclarée du 13 au 17 mai par la coalition. La population de la capitale yéménite avait espéré que cette pause de 5 jours aboutirait à une trêve durable et au retour des protagonistes à la table de négociation. Mais la coalition rejette sur les rebelles la responsabilité de la reprise de ces bombardements en les accusant hier d'avoir profité du cessez-le-feu pour se renforcer. Pour l'adjoint du porte-parole de l'ONU, ces dernières frappes aériennes menacent la tenue d'une conférence internationale sur le Yémen. La coalition a commencé le 26 mars dernier sa campagne de frappes aériennes contre les Houthis, accusés de recevoir une aide militaire de Téhéran. Ces rebelles chiites se sont emparés depuis septembre de vastes territoires dans le centre, l'ouest et le sud du pays, forçant le président Abd Rabo Mansour Hadi à se réfugier en Arabie Saoudite. Ce conflit a déplacé plus de 545 000 personnes, a indiqué mardi le porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés, Adrian Edwards. Il a fait en outre quelques 1850 morts et 7394 blessés depuis mars, selon un dernier bilan de l'OCHA, l'organisme de l'ONU gérant les situations d'urgence.
c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.